Le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, le journal de Tumulte avec Philippe, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Mais d'ici là, 30 minutes de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce Tumulte numéro 1076. Jean au micro, salut.
Une douzaine de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre l'échauffouré. Or, sous tous les cieux sans vergogne, il est un usage bien établi. Quand il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être sur le point de succomber, moi je bichais, car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant « Hip hip hip, hurrah !» Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier « Mort aux vaches ! Mort aux lois ! Vive l'anarchie !» Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un laiton. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle tout ce qui passe à sa portée. Il tombe. Et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait reçu leur comptant de nion, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Cette furie, c'est à peine si j'ose le dire, tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses par bonheur. Ils n'en avaient pas. Leur aurait même coupé les choses par bonheur. Ils n'en avaient pas.
La chanson de Georges Brassens, vous l'avez reconnue, « Hécatombe », chanson qu'il est dangereux de chanter aujourd'hui apparemment, puisqu'un quidam de la ville de Rennes chantait cette chanson sur son balcon quand passaient justement des policiers. Eh bien, cette personne a été condamnée à plusieurs centaines d'euros à payer et de travaux d'intérêt généraux. Alors, en solidarité, une chorale, la Canaille du Midi, une chorale de Toulouse, eh bien, est allée chanter cette même chanson de Georges Brassens devant le commissariat. Eh bien, elle aussi a été convoquée à la police. Et bon, on attend la suite. Hécatombe était chantée par Éric Larenne avec les Étrangers Familiers. Éric Larenne qu'on écoute avec un extrait de son dernier album et leurs enfants.
J'ai eu la pêche. Oh, j'ai eu la grande forme. La grande forme. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Le cœur a pété de jus. Je l'ai eu, la grenade. J'ai tenu dans ses mains colossales, pas loin de Vincal, pas de son métier, non, pas de son métier,
porté du ciment, de la chaux. J'ai porté sur mon dos plus d'une tuile. Combien de danseuses? Tiens, j'espère. Mes quatre filles, la peste du père. J'ai pas plein les bottes, j'ai pas plein les semelles. Mes pas, je les ai portés. Pas les sabots, des galoches, des baskets. Une vieille paire de Clark qui se sont perdus. Des brodequins de cuir épais, danser de couleurs nouvelles. Des bottines pointues. J'avais eu le cœur pété le jus. Je l'ai eu la grenade. J'ai déboîté, j'ai remboîté mes genoux. Les poux, ça j'ai mal digéré. J'ai jamais pu. J'ai recousu mes attaches les plus fines. J'ai plié les chines. J'ai plié les chines.
Extrait de son dernier album et leurs enfants. Et donc, les étrangers familiers, Éric Laren, Loïc Lantoine, Denis Charol, Joseph Doherty et plein d'autres. Les étrangers familiers, un salut à Georges Brassens, seront en concert à Arras le 25 juin, samedi 25 juin, à partir de 20h au Casino, dans le cadre du festival Fête de la chanson organisé par Didouda. Et ce concert est un concert anniversaire pour Radio PFM. C'est un concert placé sous le signe de 30 ans de Radio Libre, 30 ans de Radio PFM. Donc samedi 25 juin, à partir de 20h au Casino d'Arras. C'est pour tous les concerts de ce festival Fête de la chanson. Vous pouvez gagner des places, une invitation pour deux personnes. Vous appelez au 03 21 50 99 99 pendant la musique. On écoute Loïc Lantoine, extrait d'un album en public, Cosmonaute.
On va faire une autre chanson française. C'est une chanson française qui commence par de l'authentique, c'est de la chanson réalité. Un jour où je me barrais en... où j'étais en légère errance, où ce que mon père m'a dit, écoute-moi bien fils, aujourd'hui quand on veut la lune, On n'est pas poète, on est cosmonaute. Mon papa, je m'en viens juste d'alunir. Je regarde si je vois pas la maison et je prends le temps de t'écrire pour te dire que t'avais raison. Mon scaphandre, il est pas nouveau, mais il sent très bon la sueur. Je te salue chez mon boulot, le front déposé sur ton cœur. La bande à collègues, et puis moi, on est content d'être cosmonautes. Au début, on avait les foies, mais on s'est tous collés aux autres. J'étais pas vaillant au labeur, mais d'Armentières à Baïkonour, j'ai tenté de geôlier les heures, sachant que t'aurais tout fait pour. Aujourd'hui, dans ce grand bordel, j'essaie de gueuler en souriant et de tracer à tire-d'aile un dessin qui unit les gens. Mon papa, je m'en viens juste d'alunir. Dis-moi si t'aperçois ma flamme, le plaisir que j'ai à divertir. Et salue ma maman, ta femme.
Dans le cadre du festival Fête de la chanson
et dans le cadre des 30 ans de Radio PFM,
concert des étrangers familiers à Arras.
Bon pied, bon œil, personne d'averti.
Les étrangers familiers revisitent, réinventent, réimaginent les chansons de Georges Brassens avec sur scène Loïc Lantoine, Éric Larenne, Joseph Doherty et d'autres musiciens.
Première partie avec les chanteurs et chanteuses amateurs de Didouda.
Ma camarade qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile.
Les étrangers familiers en concert avec Didouda et Radio PFM, samedi 25 juin à 20h au Casino d'Arras.
Les tarifs sont de 16 ou 20 euros et vous pouvez appeler PFM pour gagner des places au 03 21 50 99 99.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour.
Dans le cadre du festival.
Chardalene la nador residui l'arlelo residui l'arlelo.
Chardalene la nado, pour essayer de jouer à l'île de l'eau.
dawa star hasine sidam sidam annak fasirhu sidam sidam annak fasirhu sharbale nilana do
C'était Ibrahim Joe Experience, extrait d'un album compilation, deuxième volume, consacré aux guitares Touareg. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Cannes, extrait de l'album double, Tagomago, Oh Yeah.
ça c'est intérieur.
Can Tamgo Mago, extrait de l'émission Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub, et juste après le journal de Tumulte. Journal de Tumulte avec Philippe Guy sera de retour le mois prochain. On le salue au passage hein, quand même. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Et au sommaire de ce journal, l'Islande et la Grèce, où quand on ne peut plus rembourser, faut-il rembourser quand même? Le RSA et les assistés, ou comment remettre les gens au travail quand il n'y a pas d'emploi? Et puis, pour terminer, Philippe nous proposera un éclairage philosophique sur « Y a-t-il un sujet de l'histoire ?» Laurent, Philippe, salut.
Bonsoir.
Alors, on commence par l'Islande et la Grèce. Bon, Laurent, il y a un mois à peu près, tu nous avais pas mal parlé de la Grèce, de l'Espagne, de l'Irlande. On y ajoute ici l'Islande parce que finalement, les décisions n'ont pas été tout à fait les mêmes au niveau du gouvernement parce qu'il y a eu des référendums.
Oui, c'est ça qui est intéressant parce qu'au point où on en est arrivé avec la Grèce... on se demande si la vraie sortie des problèmes de la dette, et en particulier pour la Grèce, si la véritable issue, c'est pas l'issue démocratique, tout simplement, en contrastant ce qui est en train d'arriver au peuple grec avec l'expérience islandaise. Parce que on l'a peut-être pas beaucoup dit, ni ça n'a sûrement pas été beaucoup entendu, mais dans le cas de l'Islande, les Islandais, par référendum, à deux occasions, ont refusé de rembourser la dette contractée par les banques de leur pays auprès de ressortissants anglais ou hollandais. Et donc, on pourrait dire, là, c'est la démocratie qui l'a emporté sur les marchés financiers, alors que pour l'instant, en Grèce, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les marchés financiers, le FMI et la Banque Centrale Européenne qui dictent sa loi au peuple et qui est en train de le faire crever sous des plans d'austérité absolument draconiens.
Alors, est-ce que l'histoire est la même en Islande et en Grèce ou en Espagne ou en Irlande? C'est-à-dire, est-ce que c'est le même type de crise financière auquel on a assisté? Est-ce que c'est le même mécanisme?
Alors non, la crise n'est pas exactement de même nature, mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne peut pas donner des idées politiquement. Mais oui, il faut commencer par dire ça tout de même. La crise n'est pas de même nature parce qu'en Islande, ce n'est pas d'abord l'État qui s'est retrouvé extrêmement endetté, mais ce sont les trois principales banques du pays qui se sont livrées à peu près à toutes les opérations que la finance dérégulée permettait de faire et qui se sont retrouvées emportées par le tourbillon à la fois de la chute de Lehman Brothers, mais par leur propre turpitude et leurs propres engagements. Je ne sais pas s'il faut décrire dans tous les détails ce qui s'est passé.
Quand même un détail, Laurent, j'aimerais bien comprendre, c'est l'histoire des lettres d'amour.
le mot
est poétique. Et
je savais que tu essaierais de me coller là-dessus. Et alors, vu ce que j'ai vu, je n'ai pas encore tout compris. Je peux essayer d'en donner une petite idée. Alors, il faut quand même dire d'abord la problématique. En Islande, au tournant des années 1998, les trois principales banques du pays ont été privatisées. Et dans l'ambiance générale de dérégulation financière, se sont mises à gonfler leurs activités bien au-delà de ce qui était nécessaire au fonctionnement d'une économie de 600 000 âmes, si ma mémoire est bonne. Les banques islandaises se sont mises à emprunter sur les marchés financiers pour faire les opérations que toutes les autres banques respectables faisaient, c'est-à-dire acheter des produits titrisés, acheter des titres hypothécaires, acheter des entreprises un peu partout dans le monde. Et donc emprunter d'un côté et placer sur les marchés financiers de l'autre, jusqu'à ce que leurs actifs représentent 8 fois le PIB du pays. Bon, ce qui est absolument gigantesque. À partir du moment où ces actifs financiers se sont dépréciés à cause de la crise de l'immobilier américain, à cause de la chute de Lehman Brothers et puis à cause des cours de la bourse, ces banques étaient devenues insolvables et des retraits ont commencé à se faire au guichet de ces banques et elles n'avaient plus en face les crédits ni les revenus pour pouvoir rembourser leurs clients. Les difficultés augmentant au fur et à mesure, tout ceci commençait à se révéler à partir de l'année 2006. Elles s'étaient mises à faire pour trouver des liquidités, anticipant leurs difficultés futures. Elles s'étaient mises à faire deux, trois autres magouilles collatérales pour en trouver. Et parmi celles-là, il y avait les lettres d'amour. Voilà, tu trouves le terme super. Alors, qu'est-ce que c'est que ces lettres d'amour? Grosso modo, c'est que ces banques, pour retrouver de l'argent liquide, émettaient leurs propres titres de créance ou de promesses de remboursement qu'elles faisaient acheter par d'autres banques. Donc, ces autres banques les achetaient en les finançant à crédit, c'est-à-dire en émettant leur propre monnaie. Et donc, chaque banque, finalement, refinançait l'autre ou les autres en lui faisant du crédit. Dans sa propre monnaie, c'est ça les lettres d'amour, ce qui fait que ces créances n'étaient gagées sur aucun espoir de revenus futurs. C'est carrément de la cavalerie, quoi, de la cavalerie, mais avec une entente entre les différentes banques. Alors ça s'est fait à l'intérieur de l'Islande, si j'ai bien compris, mais ça s'est fait aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que ces banques-là ont ouvert des succursales dans différents pays européens, et puis, elles émettaient des titres de créances qu'elles vendaient à ses succursales dans les pays européens, qui elles-mêmes présentaient ces titres de créance à la Banque Centrale Européenne pour obtenir de la liquidité en contrepartie, c'est-à-dire de la monnaie de l'euro, et renvoyer le tout en Islande. Donc il y avait une manière de se faire crédit à soi-même, là où d'habitude les banques font crédit à l'économie. Elle crée bien entendu de la monnaie pour faire crédit à un entrepreneur, mais là, d'une certaine manière, avec ce système, elles avaient réussi à créer de la monnaie pour s'auto-alimenter en liquidité. Alors, le seul truc, c'est qu'elles ne pouvaient pas le faire strictement avec elles-mêmes. Il fallait au moins, une réciprocité entre établissements pour que ça puisse se faire. Mais c'était ça la seule complication. Alors donc le contexte est quand même différent entre ce qui s'est passé en Islande et en Grèce parce que en Islande ce sont bien les banques qui ont fait faillite et une faillite retentissante. Mais ce qu'il y avait de particulier dans cette faillite, c'est que beaucoup d'endettements ou de dépôts que les banques devaient honorer, c'était des dépôts faits par des déposants d'autres pays et en particulier des déposants hollandais et des déposants britanniques. Ce qui fait que les banques islandaises devaient à peu près 5 milliards d'euros, avaient 5 milliards d'euros de dettes envers ces déposants, ce qui fait à peu près 50% du PIB de l'Islande. Et parce que l'Islande était dans l'espace économique européen, ou en tout cas pas en Europe, hein, mais avait accepté les règles de l'espace économique européen, les dépôts de l'ensemble de ces banques étaient sous garantie d'État. Donc, une fois que ces banques ont été en faillite, qu'elles ont été renationalisées pour une bouchée de pain, il restait tout de même que l'État islandais devait honorer les dettes de ces banques envers les déposants hollandais et anglais dont on parlait. Et c'est ça que le peuple a refusé par deux fois, par référendum, et dans l'intervalle, il y a le gouvernement, le parti au pouvoir depuis je ne sais pas combien de temps, mais plus de cinq décennies à virer. Il a été remplacé par une coalition vert sociaux-démocrates, et par deux fois, par référendum, le peuple a refusé que la garantie de l'État joue en faveur de ses dépôts de manière indue.
Alors qu'est-ce qui se passe dans une situation comme celle-là quand la population refuse, par la voix de son État, par le biais d'un référendum, d'eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe quand le processus de remboursement n'a pas lieu ?
Bah rien, ça la fout un peu mal, mais le peuple a raison, bon, il est souverain. Donc il y a quand même un gros conflit, évidemment, diplomatico-politique entre l'Islande, les Pays-Bas et l'Angleterre. Surtout que le gouvernement de Gordon Brown et le gouvernement des Pays-Bas n'a pas attendu quand même la volonté de rembourser de l'État islandais pour garantir, pour rembourser les déposants dans leur pays, leurs propres concitoyens. Donc en fait, maintenant, d'une certaine manière, la dette, c'est une dette de l'État islandais vis-à-vis de l'État anglais et de l'État néerlandais qui ont honoré les dettes des banques islandaises pour, disons, indemniser leurs déposants. Bon. Donc ben, voilà, il ne se passe plus rien. Il y a des créanciers floués normalement, mais là, ils n'ont pas été totalement floués puisque leurs propres États sont venus à leur secours. Donc on pourrait dire... Le résultat de cette affaire, c'est uniquement du conflit diplomatique et politique entre différents pays. Alors, il faut dire aussi que ce qu'a fait l'État islandais est encore plus fort, c'est que d'une certaine manière, il a honoré sa garantie sur l'ensemble des dépôts bancaires des Islandais à l'intérieur de ses banques. Il y avait une garantie de dépôt illimitée. Illimitée. Alors que bon, les auteurs d'un papier là, dans le monde diplomatique du mois de mai expliquent très bien que si on avait limité la garantie des dépôts à 50 000, l'équivalent de 50 000 euros par ménage ou par propriétaire, finalement on aurait sauvé 95% des gens. Et les seuls qui auraient vraiment perdu, ce sont les très riches. Hein. Mais en fait, c'était une espèce de plutocratie. Plutocratie qui était au pouvoir, et elle avait bien pris sa sécurité après avoir amassé des millions et des millions pour qu'il y ait des garanties de dépôt illimitées sur les avoirs bancaires.
Alors ce type d'attitude d'État, suite à une décision de la population par voie référendaire, est-ce que c'est concevable, est-ce que c'était concevable en Grèce, en Irlande, en Espagne, au Portugal ?
Il faut dire que il fallait que la situation aille très loin pour que ça devienne concevable. Bon, là, on pourrait dire l'idée de payer pendant... C'était jusqu'en 2023, quoi. L'idée de payer une espèce de dette de guerre allemande pendant presque 15 ans à des pays étrangers en ponctionnant par l'impôt les concitoyens pour leur faire payer d'une certaine façon les impéritie des banques, la somme était gigantesque et le scandale était prodigieux et l'injustice flagrante. Et donc, sans doute, ça a alimenté la possibilité d'une issue politique. En Grèce, la situation est différente. C'est l'État lui-même qui, d'une certaine façon, est devenu le réceptacle d'une dette abyssale. Alors, à la fois parce que pendant des années, il n'a pas su prélever l'impôt. Et puis ensuite, la conjoncture économique s'est tellement dégradée que l'État a encore perdu en recettes fiscales. Mais on ne peut pas exclure que les mouvements sociaux en Grèce deviennent tellement importants et le fardeau de la rigueur mis en place par le FMI, la BCE et les États européens est suffisamment affamé le peuple et mis à genoux qu'il réclamera un référendum. Et il n'est pas impossible, d'ailleurs, il me semble, que les gouvernants eux-mêmes finissent par ne plus voir que cette issue, c'est-à-dire soumettre à référendum dans différents pays les plans de rigueur. Et pour l'instant le FMI joue un petit peu avec le feu et la BCE joue un petit peu avec le feu politiquement parce qu'il demande au gouvernement grec, Papandréou, pour reprêter, pour faire un deuxième plan de financement, il le réclame le consensus politique. Alors, consensus politique, normalement, ça veut dire l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale votent le énième plan de rigueur et votent l'aide du FMI, votent l'aide de la BCE, etc. Mais le gouvernement de droite, qui est pourtant pour une grande partie responsable de la montée de l'endettement public en Grèce, l'opposition de droite ne veut pas se mouiller dans ce consensus, ce qui est sans doute prudent d'ailleurs. Donc, on ne peut pas exclure que Papandréou sera obligé d'en venir à cette extrémité quand le couvercle de la marmite sera vraiment prêt à exploser, de dire ben, on va demander un référendum. Et puis, il s'en lavera les mains. Ben, si c'est oui, il prolonge le plan de rigueur. Et si c'est non, ce n'est pas lui qui l'a fait échouer.
Et là, si dans une situation où la Grèce refuse le plan de rigueur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des moyens de rétorsion?
Alors là, ça se passerait, à mon avis, de manière assez rapide. C'est que le FMI refuserait non seulement un nouveau plan de financement, les gouvernants européens refuseraient également de mettre leur quote-part à un nouveau plan de financement qu'on annonce quand même à 80 milliards de dollars. Et on annonce les besoins de financement de la Grèce jusqu'en 93, il faut qu'ils trouvent à peu près 130 milliards d'euros. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de deuxième vague de prêts, c'est clair. Et même les sommes qui restent à avancer sur le premier plan, qui n'est pas complètement terminé, qui est en cours, seront bloquées. Bon. Donc, ça veut dire que la Grèce ferait défaut quasiment du jour au lendemain. Et que, grosso modo, les banques perdraient sans doute la moitié, ou peut-être même les deux tiers des créances qu'elles ont sur la Grèce. Je crois que c'est le scénario assez probable. J'ai l'impression que les gouvernants européens jouent la dernière cartouche. Je ne sais même pas s'ils y croient à ce nouveau plan de refinancement. La seule chose qui me préoccupe, c'est effectivement ce dont on est en train de parler. Ça va être quoi le scénario, le déroulement concret du défaut de paiement de la Grèce? À mon avis, ça ne va pas se faire en bon ordre. Bon. Ça pourrait nous donner des idées à nous. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette affaire, il me semble? Pourquoi on s'acharne à ce point-là sur la Grèce? Parce que on pourrait dire maintenant la raison, ça consiste à mettre les banques autour d'une table et à leur dire vous allez perdre le tiers de vos créances. Et puis si vous ne nous aidez pas à régler le problème, ce sera la moitié. Bon, on pourrait tout à fait mettre les banques dans cette position. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ce sont les marchés financiers qui gouvernent, et les marchés financiers pourraient penser que si les gouvernants européens ont autorisé un pays à faire défaut, il y en aura d'autres qui viendront au guichet après, le Portugal et l'Espagne. Et certains pays, dont la France, le gouvernement français ne se sent pas complètement à l'abri d'une attaque des marchés financiers sur leurs propres dettes, qui viendrait mettre en doute la capacité de la France à rembourser sa dette. Donc c'est tous haros sur la Grèce qui est le mauvais exemple, et il s'agit de montrer qu'il n'y en a vraiment qu'un mauvais exemple. Des gouvernements qui ont mal géré les choses, un peuple indolent et paresseux, et je crois que ce qui est en train de se passer politiquement, c'est ça. C'est-à-dire une entreprise de confinement du problème en disant « Ouais, ouais, ça va peut-être péter, mais l'endroit où ça pète, c'est la seule planche pourrie de l'Europe. » Et c'est une manière de la désigner bien fermement et de faire une espèce de digue, enfin, de signaler que les autres pays sont sains. Bon. On verra si ça marche, parce qu'il y a une des trois agences de notation qui, il y a quelques jours, vient d'émettre un rapport sur la France et qui prépare déjà un petit peu les esprits en disant « Ouais, mais alors, il n'est pas sûr que la France réussisse à atteindre les objectifs de réduction de son déficit annuel sur lesquels elle s'est engagée auprès des autorités européennes. En gros, les 3% de déficit public en 93 et puis 2% en 94. Donc, il n'est pas sûr que la France y arrivera. Mais surtout, si la France ne réforme pas son système de dépenses de santé, enfin, ne comprime pas ses dépenses de santé et ne réforme pas sérieusement son système de retraite, alors on ne peut pas garantir que la note sur sa dette ne sera pas rétrogradée d'ici 2014. Donc, on est sous la dictature, mais ça n'a jamais été aussi complet, des marchés financiers. On était déjà dans l'entreprise sous la dictature des marchés financiers, mais là ce sont les États qui sont vraiment sous la dictature des marchés financiers. Et donc, on nous annonce, voilà, chers Français, pour garder une note triple A, il faudra réformer votre système de retraite et il faudra diminuer vos dépenses de santé.
Și față altă gigolo, dar mor femeile de mine ce mișto. Dar niciuna din sabie nu mi-a scăpat, mamă ce scandal mare a provocat. Sunt frumos și față altă gigolo, dar mor femeile de mine ce mișto. Niciuna din sabie nu mi-a scăpat, mamă ce scandal mare a provocat. Cineva cu parul la ușa mea, mă. Poate o fi poliția, dar ce mă facă iar mă ia, mă. Bate noapte cineva cu parul la ușa mea, mă. Poate o fi poliția, dar ce mă facă iar mă ia, mă.
Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Suite de ce journal avec comme invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant de l'Université Lille 1, le RSA et les assistés. Laurent, tu en as déjà parlé. Comment remettre les gens au travail quand il n'y a pas d'emploi ? C'est le sous-titre.
Oui, c'est exactement ce que aimerait bien pouvoir faire le gouvernement. Il faut le rappeler, la mise en question du RSA a redémarré de manière assez spectaculaire et brutale par une déclaration de M. Wauquiez, qui est ministre des Affaires européennes, il y a de ça un mois et demi, et qui avait déclaré qui fustigeait les dérives de l'assistanat en France comme étant le cancer de la société française. Le gouvernement lui a un petit peu tombé dessus pour lui dire que ces déclarations suivant lesquelles il fallait remettre au travail séparé ceux du RMI n'étaient pas de bonnes déclarations. Mais maintenant, l'UMP et le gouvernement reprend un petit peu à son compte l'idée de faire travailler les titulaires du RSA 5 jours par semaine. Pour montrer que, tout de même, ils sont redevables à la société de leur honorable situation et qu'il ne faudrait pas qu'ils snobent les gens qui travaillent du haut de leurs émoluments. C'est évidemment carrément scandaleux et je voudrais simplement donner quelques petits chiffres qui donnent un petit peu l'ampleur de la rouerie des gens qui se mettent à penser que les problèmes politiques sont à cet endroit-là. Donc, en gros, deux choses sont dénoncées. Il y a des paresseux qui se la coulent douce avec le revenu de solidarité active. Et puis, en plus, il y en a qui font des fraudes aux revenus de solidarité active parce que tout ça sort des cartons de manière extrêmement polémique. Alors, commençons par les fraudes quand même, parce qu'on nous chante aussi une petite musique en disant il y a beaucoup de fraudes au RSA. Alors c'est vrai qu'il y a deux types de fraudes aux revenus de solidarité active. Il y a celle qu'on appelle la fraude à l'isolement, C'est-à-dire que les individus, au lieu de se déclarer en couple, quand ils sont pauvres, se déclarent chacun de leur côté pour essayer de toucher chacun le RSA plutôt que le RSA qui est attribué à un couple. Bon. Et donc, si vous avez le droit, si vous avez le droit à l'intégralité du RSA, par personne, c'est 411 euros. Donc, deux fois 411 euros si vous déclarez séparément, alors que si vous vous déclarez en couple, c'est 588 euros. Bon, voilà la grosse fraude. Et puis, deuxième type de fraude, les petits boulots. Bon, y a des gens qui touchent le RSA et qui, à côté, travaillent deux ou trois heures ou 4-5 heures et ils essaient de trouver des petits jobs. Ce qui, d'ailleurs, est contradictoire avec l'idée que ces gens-là sont paresseux tout de même, parce qu'ils font du travail au black. Tout ceci est estimé par la Caisse d'allocation familiale à 60 millions d'euros de fraude par an. Sur une somme totale, le RSA, RSA socle, ce qui est l'ancien RMI, plus le RSA incitatif activité, se monte à 7,5 milliards d'euros par an. Bon. Ça veut dire que la fraude représente à peine 1% de l'ensemble des sommes allouées. La fraude, c'est-à-dire ceux qui trichent pour essayer d'avoir plus que ce à quoi ils auraient droit. Bon. Donc il faudrait quand même que ces types nous donnent un exemple de machine. Je ne dis même pas de dispositif social. Je dis de machine dont la perte d'efficacité est inférieure à 1%. Ça n'existe pas. Donc si c'est vraiment ça les chiffres de la CAF, il n'y a pas de mécanique mieux huilée que le RSA. Je ne vois pas comment on peut faire mieux que ça. Bon. On peut dire aux Français qui perdent un petit peu plus d'argent quand ils mettent un euro d'essence dans leur bagnole, parce que dans l'euro d'essence qu'ils ont mis dans leur bagnole, il y en a 95% qui sert à déplacer la bagnole, pas le passager. Bon. Et ces scandales-là, on ne les dénonce jamais. D'accord, ces machines qui ont une efficacité de 5%. Bon. Et sur l'autre aspect, c'est assez incroyable quand même. L'idée qu'on serait encombré, le RSA, le dispositif de RSA serait encombré de paresseux qui essaient de vivre au crochet de la société. Bon. On ne va pas les citer ici, mais il y a un tas d'études qui montrent que, grosso modo, la plupart des gens qui sont au RSA, c'est pour trois raisons. C'est un, ils sont complètement dissuadés de recherche d'emploi. Mais ce n'est pas par paresse, c'est parce qu'ils en ont cherché pendant 2-3 ans et qu'ils n'en ont pas obtenu. Et donc ils le déclarent sans honte et sans dissimulation dans les enquêtes qu'on fait. Donc il n'y a pas de boulot, ils n'en trouvent pas. Les autres, c'est pour des problèmes de santé. Et donc d'une certaine manière, le RSA compense d'autres dispositifs qui sont la défaillance de certaines assurances maladie, la défaillance peut-être du dispositif d'adulte handicapé, etc. Et puis, troisième raison, des accidents de la vie, comme on dit maintenant en langage journalistique, c'est-à-dire des divorces, des décès, etc. On le sait ça parfaitement, que c'est ces gens-là qui sont principalement concernés. Et on ne se demande pas une seule chose. On dit... On a vraiment affaire à des salariés français, paresseux, etc. Il y a un bon chiffre quand même à se mettre dans la tête. C'est qu'en France, le revenu salarial annuel, je vais dire tout de suite après ce que c'est, le revenu salarial annuel qui laisse en dessous de lui 25% de la population, c'est-à-dire qui est tel qu'il y a 25% de la population qui touche moins que ce revenu salarial annuel, c'est 9 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on fait la somme de tous les salaires perçus par une personne en une année, on trouve que pour une somme de 9 000 euros, il y a 25% de gens qui gagnent moins que ça. Bon, ça fait à peine 800 euros par mois, 750 euros par mois. Le seuil de pauvreté en France, je le rappelle, il est à 950 euros. C'est-à-dire qu'il y a un quart de la population qui bosse. Alors, qui bossent par des emplois à temps partiel qu'ils n'ont pas choisis, des CDD qui s'interrompent deux fois dans l'année, des périodes de chômage qui s'intercalent entre tout ça, mais il y a quand même 25% de la population qui bosse pour moins de 750 euros par mois. C'est-à-dire pour quelque chose qui est inférieur au seuil de pauvreté. Alors même que le RSA, lui, ne compense même pas la pauvreté. Donc le discours est parfaitement scandaleux, qui laisserait croire que il y a toute une frange de la population qui est prête à se mettre comme ça, à vivre aux frais de la princesse, alors que le plus étonnant, c'est l'inverse. Le plus étonnant, c'est l'inverse. C'est tous ces gens qui bossent
sans pouvoir s'en sortir, sans pouvoir faire mieux que le seuil de pauvreté. C'est ça qui est énorme. Et puis quand on regarde d'autres statistiques, peut-être je terminerai par ces chiffres-là, il y a d'autres statistiques très intéressantes de l'INSEE qui montrent que, heureusement peut-être d'ailleurs, la pauvreté qui est décrite en France et qui donne à certaines occasions droit au RSA, c'est pas du tout une pauvreté qui s'enquiste. En fait, il y a une vraie rotation dans le stock des pauvres. Bon. Alors, donnons un exemple. Sur la période, c'est une enquête de l'INSEE sur la période 2003-2006. Donc, ça fait 4 années. 2003-2006, 75% des ménages français sont restés non pauvres. Non pauvres. En gros, ils ne sont pas tombés dans la pauvreté. Ils n'y étaient pas au début et ils n'y ont jamais été pendant la période de 4 années. Donc, à l'inverse, 25% de la population est passée à un moment ou l'autre en dessous du seuil de pauvreté défini par les ménages. Dans ces 25%, 12,3% ils sont restés un an, 5,6% ils sont restés 2 ans, 4,1% ils sont restés 3 ans et seulement 3% ils sont restés 4 ans. Bon. Donc on ne doit pas se faire une image de gens qui auraient envie de stagner dans cet univers de pauvreté. Et au contraire, l'image qu'il y a, c'est que sans doute, dès qu'ils ont la véritable opportunité pour s'en sortir, ils s'en sortent et ils essaient de se barrer en courant tout de même. Simplement, ce n'est pas toujours vers un emploi durable qu'ils arrivent à se recaser. Dernier chiffre que je voudrais donner quand même, 7 milliards d'euros d'ennemis. 7,5 milliards d'euros de RSA en France sur un PIB de 2000 milliards d'euros, ça veut dire que nous consacrons à la lutte contre la pauvreté quelque chose comme, si je fais vite le calcul, ça fait 3,5 pour 1000, quelque chose comme 0,35% de notre PIB à combattre la pauvreté. Bon, sachant qu'en France il y a donc 7,5 milliards. On est, quand on dit ça, sur des choses absolument scandaleuses, quoi. On s'occupe de choses qui sont ridicules, absolument ridicules. Donc on met le petit peuple en position de jalouser celui qui est encore plus fragile que lui, plus dans la merde que lui, d'accord ? Et peut-être tout ça c'est fait pour cacher les bénéfices de Total, hein, puisque rien qu'à elle seule, cette compagnie fait plus de bénéfices par an que le montant annuel versé pour le RSA. Bon, voilà. Et si on rapporte, dernier petit calcul qui m'intéresse, si on rapporte le montant de la fraude au RSA, ce dont on parlait tout à l'heure, 60 millions par an, si on le rapporte au montant de la fraude fiscale, qui est de 50 milliards d'euros par an en France, on est dans un rapport de 1 à 1000. De quoi qu'on s'occupe ? De quoi qu'on s'occupe ? Où sont les fraudeurs ? Donc, quand on fait ça, on avachit la République. Mais c'est même pire que ça. On fait une œuvre criminelle. On fait une œuvre criminelle parce que on néglige absolument d'édifier le peuple, ça c'est clair. Mais on est sur une stratégie de confinement, de la spoliation des riches qui payent pas leurs impôts. Et on distrait le peuple avec leurs voisins qui gagnent encore moins d'argent qu'eux.
Radio PFM 99.9, c'est le magazine Tumulte. toujours libre et sans pub. Philippe nous propose maintenant un éclairage philosophique sur le thème suivant. Y a-t-il un sujet de l'histoire ? Mais auparavant quand même, Philippe, un condisciple, un collègue, Luc Ferry, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah ben, qu'est-ce que j'en pense ? Ben, je pense que, je sais pas, il a l'air d'avoir trouvé une place assez tranquille. Donc non, moi ce que j'en pense, c'est que on nous dit tout le temps, par exemple, bon, ouais, je sais pas, quand je vais pas faire une heure pour une raison, je sais pas, je suis en formation, etc. On me dit tout le temps, il faut absolument rattraper, c'est scandaleux, vous êtes pas devant vos élèves, tout ça. Bon, et puis là, apparemment, il y a des gens qui sont pas devant, je sais pas si qui sont d'ailleurs, mais ça pose pas problème, quoi. Un ancien ministre de l'Éducation, prof de philo, je sais pas s'il est condisciple en même temps. Hein.
Oui.
Je sais pas.
Alors, une autre philosophie, Philippe, y a-t-il un sujet de l'histoire ? L'histoire a-t-elle un acteur social, collectif ?
Bon, je sais pas, on pourrait commencer par dire, il y en a un, apparemment, c'est les marchés financiers aujourd'hui, qui a l'air d'être un sujet, bon. Oui, alors bon, ça c'est venu d'une discussion qu'on a eue ensemble avec toi, Jean, sur au fond qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, enfin qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sujets et qu'est-ce que ça veut dire que des groupes font l'histoire, quoi. Quand on voit les révolutions dans le monde arabe, quand on voit les mobilisations des indignés. Et qu'est-ce que c'est au fond qu'est-ce que c'est un sujet, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon, alors si on part de la notion elle-même, alors la notion de sujet, c'est une notion absolument abyssale. Enfin, je veux dire, on pourrait en discuter pendant des heures parce que évidemment c'est très riche, très compliqué. Mais enfin, bon, il y a des choses quand même assez évidentes. D'abord, la première chose quand même, c'est que un sujet, c'est quelqu'un qui peut dire je. Bon, c'est quelqu'un qui va se déclarer, qui parle en son nom propre, donc c'est quelqu'un qui parle à la première personne, qui se désigne soi-même. Bon, ça c'est la première chose. Et puis après, l'idée du sujet, c'est l'idée de aussi, contrairement à l'objet, c'est-à-dire l'objet, c'est quelque chose qui serait finalement fondamentalement une réalité passive, qui serait agi par des forces extérieures, par des forces aveugles, etc. Alors que le sujet, au contraire, ça renvoie à l'idée de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un groupe qui agit et qui peut répondre de ses actes. Il peut dire voilà, nous on fait ça et on agit dans tel but, dans telle perspective. Bon, donc ça c'est la première chose. Sartre disait par exemple que bon, le sujet au fond il disait que c'est le sujet humain, pour lui, c'était le projet, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir la capacité de, pas simplement d'être défini par la situation dans laquelle on est, mais de la voir, de la concevoir dans son ensemble et de projeter quelque chose qui soit finalement au-delà de la situation telle qu'elle est à un moment donné, d'avoir un horizon, quoi. Donc si maintenant on renvoie à la question de l'histoire, évidemment la question c'est celle des sujets collectifs, puisque bien évidemment, s'il y a les individus agissent, etc. Bon, ce qui peut ébranler ou ce qui peut jouer dans l'histoire, c'est plutôt évidemment des sujets collectifs. Donc, qu'est-ce que c'est un sujet collectif, un acteur collectif, et comment ça peut et qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Est-ce que vraiment l'histoire est quelque chose que nous subissons ? Alors, on a ce sentiment souvent que notamment aujourd'hui, bon, quand on voit justement ce poids de la fatalité qui semble s'abattre sur un certain nombre de peuples ou de parties du peuple qui sont avec cette idée que finalement rien ne change, quoi, c'est toujours la même situation. Donc la question c'est est-ce qu'il y a simplement des actions qui ont lieu et qui se perdent et qui n'aboutissent jamais à rien, ou est-ce qu'il y a simplement des forces aveugles, objectives justement, qui pèsent sur l'histoire ? Alors je crois qu'il faut partir quand même d'une formule de Marx qu'on trouve dans son texte sur le 18 Brumaire, là, bon, une formule célèbre, hein, mais qui est assez intéressante, hein, qui dit donc que les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions données héritées du passé. Alors pourquoi elle est intéressante cette phrase ? Parce qu'elle dit à la fois que les hommes sont responsables de l'histoire, alors elle dit les hommes, c'est-à-dire que c'est une rupture aussi avec l'idée qu'il pourrait y avoir un cours de l'histoire, qu'il y aurait un sujet non humain de l'histoire. Alors Dieu, une providence divine qui guiderait le cours de l'histoire, ou peut-être même d'ailleurs une espèce de fatalité historique comme ça qui emporterait les choses. Dire les hommes font leur propre histoire, ça veut dire qu'il y a bien une responsabilité des hommes dans l'histoire. Bon, ils la font. Bon. Mais évidemment, au moment même où il affirme ça, il dit en même temps que les hommes la font, mais que c'est pas une maîtrise, quoi. C'est pas, les hommes sont pas maîtres de l'histoire au sens, et pour une raison très simple, qui serait un malin génie, un diable ou quelqu'un, etc. Non, parce que on a des conditions de l'histoire. Bon, on hérite de conditions, celles des générations passées, le travail accumulé, tout ce qui a été fait par les hommes avant nous, les conditions naturelles aussi qui sont données. Et donc à la fois il y a évidemment les hommes vivants, individus qui agissent, mais dans le même temps il y a un héritage. Hein. Et au fond, pour poser la question du sujet de l'histoire, ou est-ce qu'il y a un ou des sujets de l'histoire, ben justement, il faut toujours envisager ces deux questions. C'est-à-dire qu'il faut envisager à la fois que effectivement les hommes agissent et font, mais qu'ils agissent et ils font dans des conditions qui leur sont imposées. Alors ça renvoie à la fois au fait que il y a bien action. Il y a pas, c'est pas des forces aveugles qui nous dirigent, et que aussi cette action, pour pouvoir devenir une véritable action, elle doit pouvoir réfléchir à les conditions dans lesquelles elle arrive. Bon, alors il y avait un autre, un philosophe marxiste, on peut dire, même s'il est très très hétérodoxe. Que j'apprécie beaucoup moi personnellement, qui s'appelait Ernst Bloch, et lui il disait, en parlant du marxisme, il disait justement il y a deux courants, quoi. Il y a ce qu'il appelait le courant froid et le courant chaud. Alors le courant froid, c'est l'analyse des conditions objectives qui effectivement fait qu'on doit connaître les conditions, on doit analyser quelles sont les situations, quelles sont les forces économiques en présence, etc. Bon, mais évidemment, cette analyse-là, elle reste toujours, d'une certaine façon, l'analyse de la situation telle qu'elle est. Hein, quand on analyse telle crise économique, etc., on analyse la situation telle qu'elle est, bon, à un moment donné. Et puis il disait en même temps, il y a le courant chaud. Alors le courant chaud, pour lui, c'était un courant quasiment utopique, hein, avec cette idée que le courant chaud, c'est au fond les rêves des hommes d'arriver à un monde dans lequel ils ne se sentiraient plus étrangers, et justement où ils pourraient être vraiment, où ils pourraient devenir plus maîtres de leur histoire. Et il dit au fond, l'enjeu, c'est de réunir et de maintenir ces deux courants à la fois. C'est-à-dire, si on laisse le courant froid, eh bien, ça devient une analyse objective, où on se dit, bon, de toute façon, il y a un cours de l'histoire, on n'a qu'à attendre, ou accompagner. Ou alors, si c'est l'utopie pure, ça devient un pur, le sujet, mais alors le pur volontarisme, hein, on va demain, on va raser gratis, pour ainsi dire, je ne sais pas comment dire ça, mais... Et donc, le but, c'est d'arriver, évidemment, disait-il, de maintenir les deux courants ensemble. Bon. Alors maintenant, sur le sujet, sur la question du collectif, en fait, parce que c'est ça qui complique, on comprend bien ce que c'est qu'un sujet individuel. Alors ce que c'est qu'un sujet collectif, c'est beaucoup plus compliqué. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut faire, la distinction entre les conditions et de l'action et l'action elle-même. Parce que on peut dire parfois, une classe, alors même sous une forme un peu mythique, le prolétariat fait l'histoire. Bon. Mais en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça peut désigner, à la limite, une classe sociale, ça peut désigner des conditions communes. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre d'individus considérés sous un certain angle, ils ont des conditions de vie qui sont... Euh, qui sont les mêmes ou qui sont semblables, etc. Alors, ça peut prendre des formes mythiques, parce que quand on parle du prolétariat, quand on a pu parler, par exemple, dans le mouvement révolutionnaire, etc., du prolétariat en général, bon, le prolétariat en général, il n'existe pas. Il y a, à la limite, on pourrait dire, il y a des prolétariats, et puis à l'intérieur de... Bon, il y a évidemment toujours des... Il y a toujours des choses précises. Donc là, il y a un mythe aussi qui existe. Et donc évidemment, une classe en tant que telle, elle agit pas. Enfin, ça peut pas être un sujet de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui peut exister, ce sont des groupes. Ce sont des groupes qui, à un moment donné, alors évidemment, portent dans des conditions. Ils peuvent faire partie d'une classe, ils peuvent, etc. Mais ce sont des groupes qui se réunissent et qui se déclarent. Parce que alors, l'un des, si on regarde par exemple ce qu'on voit sur les mouvements sociaux, là, pour qu'il y ait un sujet de l'histoire, il faut à un moment donné qu'il y ait un sujet qui apparaisse. Et comment il apparaît? Ben justement, il fait ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire qu'il se nomme. Il se nomme, il se donne un nom, il se donne un projet, il se déclare, etc. Donc, ça, c'est toujours lié à des circonstances et à des situations qui sont particulières. Autant il peut y avoir des conditions d'ensemble, mais autant des sujets de l'histoire, c'est toujours des sujets particuliers et liés à des... Et lié à des événements. Bon. Et on voit bien que le premier acte d'un... Si on prend les indignés, par exemple, en Espagne ou en Grèce, bah, leur premier acte, c'est de se déclarer. C'est-à-dire, c'est de dire, bah, on n'existait pas et maintenant on va exister. Bon. C'est ça la première chose qu'ils font. Donc, je crois qu'il faut renoncer à l'idée qu'il y aurait un... Et encore plus aujourd'hui, de cette façon, il faut renoncer à l'idée qu'il y aurait un cours de l'histoire objectif qui se déroulerait, ou un sujet déjà constitué qui porterait l'histoire. Alors, une classe, etc., qui en elle-même serait le garant d'un sens de l'histoire. Parce que, tout simplement, ça n'existe pas. Si on rentre dans ce genre de choses, on est toujours dans le mythe, quoi. On n'est jamais dans l'action réelle. Mais alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut renoncer à l'idée qu'il y ait des sujets de l'histoire. C'est-à-dire que oui, il y a effectivement des conditions objectives et il y a à un moment donné des possibilités d'action. Alors la possibilité d'action, je finirai juste là-dessus, au fond, sur deux choses. On trouve chez Machiavel, dans Le Prince de Machiavel, on trouve cette idée qu'au fond, l'action historique, c'est quoi ? C'est une volonté, ce qu'il appelle la vertu en italien, bon voilà, une volonté, une capacité d'efficacité, des circonstances, ce qu'il appelle la fortune, bon, les circonstances et le cours objectif, parce qu'il y a bien quand même des données, il y a bien des logiques, etc. Et puis, après, lui, il dit, bah, l'action politique et l'action historique, le moment où le sujet, il peut exister, c'est-à-dire il peut devenir acteur, il peut devenir un vrai sujet historique, bah, c'est l'occasion. C'est-à-dire l'occasion, c'est le moment où il y a les circonstances d'un côté, il y a une volonté de l'autre, et il peut y avoir quelque chose qui fait que ça cristallise, quoi, et que on peut finalement renverser les circonstances. Et puis le dernier point, c'est que quand on a l'impression, peut-être que c'est une chance, quoi, parce que quand on a l'impression que tout est désespéré ou qu'on va contre le sens de l'histoire, bah c'est là justement que la question du sujet de l'histoire, elle prend tout son sens. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut agir. Aujourd'hui, je ne sais pas, quand on voit les gouvernements d'Amérique latine, Morales, par exemple, on n'a pas l'impression qu'il aille dans le sens de l'histoire. On a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui surgit de manière un peu inopinée. Mais c'est peut-être ça, justement, c'est-à-dire... On n'est pas porté par des conditions objectives, mais à un moment donné, quand la situation est désespérée, bah c'est peut-être là justement que toute la volonté et l'inventivité est possible, quoi.
Beau sujet de réflexion. Difficile d'intervenir après. Laurent, tu as un petit mot à dire sur cette question?
Moi, je suis presque spontanément d'accord avec ce que dit Philippe à chaque fois, donc j'ai du mal. Et en particulier, la chose avec laquelle je suis vraiment d'accord, c'est qu'il n'y a pas un sujet de l'histoire, parce que ce n'est pas toujours le même. Et puis c'est pas tout le temps. Enfin, l'histoire est pas tout le temps agie et transformée par des groupes qui sont en position de réussir à imprimer leur marque et à transformer les institutions. Donc ça. Et alors ce que je me demande, c'est le point peut-être que tu pourrais éclaircir, c'est justement le moment où les sujets se constituent. T'en as parlé à la fin, et en particulier les sujets collectifs. Moi j'ai ce sentiment que quand même. Finalement, les comment on pourrait les appeler, ceux qui vivent avec nous sur Terre. Bon, ils n'ont pas forcément envie de se constituer en sujet de l'histoire. Enfin, et c'est presque peut-être l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'ils aiment. Je crois qu'on a tous un désir assez naturel que, y compris l'environnement politique, économique, nos artefacts. Soit une espèce de seconde nature, quoi, avec la même stabilité au monde et la même présence à l'extérieur de nous, la même objectivité des choses. On a besoin que notre environnement social soit le monde, quoi, réel et non critiqué. Bon, et parce qu'on a aussi besoin d'être dans le monde comme un poisson dans l'eau, entre guillemets. Donc, on ne regarde pas la couleur de l'eau de l'aquarium. Donc on n'est pas tout le temps en train de se poser la question de la fragilité des choses, de leur inconstance, de leur instabilité, et puis de la possibilité de les révolutionner. Je crois que c'est même l'inverse. Enfin, on cherche une espèce de monde un peu tranquillisant, même s'il est affreux. C'est pour ça aussi qu'on s'adapte, quoi. Bon. Et du coup, quand est-ce que les sujets se constituent ? Il me semble que c'est à des moments où ça se fracture dans l'objectivité du monde. Tout d'un coup, Lehman Brothers se casse la gueule. Il y a des tas de banques qui risquent de se casser la figure. Et donc, il y a tout un pan de la réalité qu'on pensait d'une certaine manière comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des banques, etc. Et au moment où ça se fracture... Ça perd de sa naturalité, ça perd de son extériorité, de son objectivité. Moi, je n'ai sans doute pas les mots du philosophe. Et à ce moment-là, quand même, il y a une remise en question. Les gens s'aperçoivent que ce n'était pas la même chose que le rocher qui était là à côté, et lui qui fait partie de la nature. Qu'il y avait des rapports sociaux, et donc le fétichisme des rapports sociaux se déconstruit. Enfin, je pense qu'il y a des épreuves comme ça. Il y a des épreuves qui ramènent parfois de la clarté dans le fait que nos institutions, le monde, le socius, l'histoire, c'est pas la même chose que la nature. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, cette révélation permet aux gens de se constituer en acteurs.
Alors finalement, Philippe, je trouve que le sujet de l'histoire, ce thème plutôt, rejoint pas mal celui que tu avais développé sur la notion d'événement. Parce que finalement, là, ce qui semble apparaître, c'est que le sujet, finalement, il est connu, on peut le connaître au moment où il se déclare, au moment où il se constitue au cours d'un événement. Ça, je rejoins un peu ce que disait Laurent, un moment de rupture. Hein, et où il y a du possible nouveau qui apparaît. Et puis, il y a un autre étage peut-être qu'il faudrait rajouter à ce que tu as dit, c'est que le sujet, on n'est pas extérieur non plus, nous qui commentons ou qui nous réfléchissons sur la question, on est aussi un élément qui peut constituer ou ne pas constituer tel ou tel sujet. Finalement, c'est une affirmation de liberté, mais de liberté dans des, comme tu l'as dit, hein, dans des conditions qui sont pas totalement arbitraires.
Oui, alors ça fait bon. Mais je sais pas. Moi, je pense que par exemple sur les, bon, il y a beaucoup de choses parce que effectivement le. Bon, d'abord, le fait d'être... C'est comme quand on a... Bon, alors là, pour prendre des analogies, quand on doit décider quelque chose dans sa propre vie, en général, évidemment, c'est parce qu'on est à un moment où il y a quelque chose qui se fracture, il y a quelque chose qui se passe pas, comme... et là, il faut décider. Bon, évidemment, décider, c'est être responsable. C'est-à-dire que je pense que l'ordre habituel la naturalisation, le fait de considérer les choses comme allant de soi, bah, d'une certaine façon, c'est ce qui enlève la responsabilité. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit toujours, y compris quand les gens sont réellement responsables, mais ils vont toujours se cacher derrière l'ordre des choses, quoi. L'ordre des choses fait que ça s'est passé comme ça, et que bon, et être un sujet. Si ça veut dire qu'on a une certaine possibilité de liberté, c'est-à-dire s'il y a bien quelque chose comme un choix, peut-être limité, mais un choix, ça renvoie à la responsabilité. Évidemment, la responsabilité, c'est aussi un fardeau, quoi. Donc, ce fardeau, c'est parfois pas mal d'essayer de s'en débarrasser sur l'ordre des choses, l'ordre du monde. Après, effectivement, il y a aussi le fait qu'il y a une naturalisation qui se produit des rapports sociaux et que, je sais pas, moi, la ville aujourd'hui, c'est comme si on se promenait dans la forêt, c'est devenu notre environnement. Bon, donc il y a tout ce phénomène-là. Après, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des fois où on se demande ce qui a bien pu fracturer, quoi. Quand on voit, par exemple, l'exemple assez typique, peut-être, c'est celui de mai 68, quoi. A priori, comme ça, si on regardait les choses d'un regard neutre et objectif, entre guillemets, il n'y avait pas de raison qui semblait. Et puis parfois les choses se fracturent et pour autant il se passe rien. Donc ça c'est, enfin bon, bon ça, pour moi ça reste assez énigmatique, cette affaire là quand même. Et enfin juste sur la question du oui, sur la question de l'événement, c'est sûr que on peut pas les conditions enfin le sujet il existe au sens où il y a déjà des, il surgit pas de rien, il y a bien des conditions, mais effectivement tant qu'il s'est pas déclaré, tant qu'il agit pas, on peut pas dire ce qui peut être et ce qui peut devenir.
On peut parier.
Oui, on peut parier, oui. On peut parier. Bah oui, on doit parier même sans doute. On doit parier, quoi. C'est. Et donc, qu'est-ce que l'intelligence critique, elle peut faire? Elle peut décrire les conditions.
On termine là-dessus? Je crois.
Oui, puis la fois prochaine, il faudra faire aussi sur les non-sujets qui font l'histoire, parce que ça, c'est un aspect de notre modernité très, très élaboré, quoi. Les institutions fonctionnent toutes seules, la technologie s'emballe toute seule, les marchés gouvernent, donc on a quand même plein d'automates et de processus qui font l'histoire, et on a l'impression que on s'adapte, quoi.
Oui, je pense qu'effectivement il faudrait faire quelque chose là-dessus. Il faudrait faire quelque chose sur la dépossession du monde vécu et de la maîtrise de ce qui nous environne, qui est effectivement une des grandes caractéristiques du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que l'inflation des institutions, des héritages technocratiques qui nous environnent fait que on se retrouve dans la situation où nous ne sommes plus qu'un rouage de la machine, et tout nous incite à n'être plus qu'un rouage de la machine. Bon, c'est d'ailleurs la condition, y compris des pires atrocités des sociétés modernes. Hein, je ne fais rien, je me contente de conduire un train. Bon, il se trouve que ce train emmène des déportés, etc. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est très. Il faudrait effectivement revenir là-dessus, et c'est une des caractéristiques de nos sociétés, quoi.
Se pagar mal, tambanar mal. mi ta mamma Butto gi Figura
C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine, salut !